bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez sur RTM 33. Emmanuel avec vous sur les ondes d'RTM. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Galina, avocat. Bonjour Sylvain.
Bonjour Emmanuel.
Alors, je viens de le dire, vous êtes avocat. On va peut-être faire un tour d'horizon avant de se lancer dans les grandes affaires, on va dire. Est-ce que vous aviez cette vocation justement de devenir avocat, ou c'est quelque chose qui vous titillait depuis l'enfance, ou c'est venu tardivement?
Non, pas depuis l'enfance, c'est venu assez tardivement, disons après bac, quand il a fallu choisir une petite option, et notamment celle de savoir si je rejoignais la fac ou pas. Bon, j'ai choisi droit, j'avais pas envisagé d'être avocat immédiatement, et puis c'est un certain nombre de rencontres, l'apprentissage d'un certain nombre de pratiques qui m'ont conduit à vouloir défendre la veuve et l'orphelin, comme tous les avocats que vous rencontrerez.
Mmh. Donc, quand même, j'imagine, une certaine appétence pour s'exprimer, pour parler. Vous n'étiez pas quelqu'un de timide ?
Non, pas trop. Ça, je vous le conseille bien volontiers. Mm-hmm. La rhétorique, la défense et l'application de la règle de droit au sein d'une société. Voilà ce qui m'a conduit à devenir avocat.
Mm-hmm. Donc, j'allais y venir, justement. L'engagement, c'est quelque chose qui vous parle,
oui.
qui vous dirige aussi, peut-être, quelque part, ou qui vous conduit, enfin, c'est en tout cas...
Oui, je crois. Sans véritablement l'avoir construit ou l'avoir intellectualisé, la rencontre avec un certain nombre de personnalités, avec des engagements, avec des combats politiques et leur traduction sur le plan judiciaire m'ont conduit, alors je ne sais pas si on peut dire à être un avocat engagé, mais être un avocat au moins combatif pour un certain nombre de combats politiques et d'engagements sociétaux qui me parlent, évidemment.
Alors pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent peut-être pas comment ça fonctionne, les gens viennent vers vous justement pour vous demander de les défendre. Est-ce qu'un avocat est obligé d'accepter de défendre telle ou telle personne, ou il a un droit de réserve, il peut dire non, ou comment ça se passe en fait?
Oui, bien sûr, on reste des hommes libres, hein, des hommes et des femmes libres, plutôt des femmes d'ailleurs, puisque la profession est beaucoup plus féminine que masculine, et c'est heureux que les choses changent aussi là-dessus. Oui, on a une liberté de conscience absolue, je veux dire, c'est à la fois la défense et le conseil, mais si la cause ne nous plaît pas, premièrement, si on ne se sent pas en capacité de défendre ou de conseiller utilement, deuxièmement, ou si on a des compétences techniques trop résiduelles sur le thème qui nous est soumis, évidemment qu'on applique une clause de conscience, la conscience de soi et du travail qu'on est en capacité d'accomplir pour celui qui nous le demande, et puis plus largement, puisque c'était votre question, une clause de conscience sur l'impossibilité parfois émotionnelle, éthique, politique, d'assurer la défense de quelqu'un ou d'un combat en particulier.
Voilà. D'accord, ça vous est déjà arrivé ?
Ça m'est déjà arrivé une fois, oui. Évidemment, je réserverai mon propos, mais ça m'est arrivé une fois sur quelque chose de très très personnel, vraiment, où je me suis senti dans la capacité totale de défendre celui qui me demandait d'être assisté, et je lui ai expliqué de manière très très claire que je n'étais pas en capacité de le défendre convenablement, du fait de ses actes et du fait de mes engagements, et il l'a parfaitement compris, il a choisi un autre avocat. Mmh. Il a donc été bien défendu.
Que vous lui avez conseillé ?
Non, je ne lui ai pas conseillé, je lui ai demandé d'en trouver un tout seul.
D'accord. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez plaidé ?
Oui, je me souviens très très bien. C'était devant le tribunal d'instance de Bordeaux pour un dossier de crédit à la consommation. Donc voilà, c'est presque l'essentiel de la profession. Un organisme de crédit et un pauvre bougre qui a souscrit dans des conditions souvent dramatiques, voire usuraires, un crédit à la consommation pour acheter soit une télévision, soit une voiture, soit autre chose de cette nature, et qui est incapable de payer, se retrouve devant le tribunal d'instance de l'époque pour rendre des comptes et payer des intérêts importants.
Mmh. Juste, on est un peu sur le mécanisme, comment on devient avocat quand on commence, etc. Au début, quand on est un jeune avocat ou quand on fait l'école de la magistrature, on s'entraîne, j'imagine, à plaider, à parler devant tout le monde, à argumenter. Vous faites ou vous avez fait les 100 pas chez vous pour
non,
répéter ?
Non, j'ai pas fait ça comme ça.
Non,
non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'à l'école d'avocat, et c'est toujours le cas aujourd'hui, on a des cours de plaidoirie, qui sont des cours de rhétorique, d'argumentation, c'est la capacité ou l'entraînement de poser sa parole, de construire une argumentation. Alors, c'est pas de la rhétorique au sens pur, mais c'est la capacité ou
À s'exprimer correctement.
Ouais, à s'exprimer correctement, on va dire c'est comme ça. Donc pas de 100 pas. Et à l'école de la magistrature, où j'enseigne aussi sur les audiences correctionnelles, il y a effectivement cette thématique sur la prise de parole qui est un peu dissociée d'un magistrat à l'audience.
Ouais. Et vous plaidez avec des notes, sans notes? Comment ça se passe? On a le choix?
Oui, on a le choix. On a le choix. Alors je plaide, on a cette petite expression, je plaide souvent dossier fermé. C'est-à-dire sans véritablement des notes ou alors avec quelques mots.
Parce donc travailler avant forcément.
Le travail hein, se fait.
Qui va plaider sans avoir vu le dossier, ça n'existe pas.
Oui, non, non, ça n'existe pas du tout. Mais en revanche, ça a conduit un peu une liberté de parole. C'est-à-dire que la connaissance technique du dossier précise et puis de la procédure vous autorise la réaction de l'audience. C'est-à-dire vous avez la possibilité de réagir et d'interagir avec ce qui se passe à l'audience. Trop de notes, trop de prises de notes, trop de rédaction, ça nuit un peu la spontanéité de l'audience. Bon, je préfère me laisser cette liberté.
Très bien.
Généralement, ça va.
Et vous plaidez, plein de questions, hein. Ouais. Vous plaidez devant beaucoup de monde parce que les audiences sont ouvertes.
Oui.
Est-ce qu'il y a beaucoup de gens? Ça dépend des horaires dans la journée, comment ça se passe?
Oui, il y a quand même pas mal de monde, notamment devant le tribunal correctionnel. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de classes qui viennent, le plus souvent, pour voir comment fonctionne l'institution judiciaire. Et les audiences sont publiques, c'est le principe. Je fais une petite parenthèse, j'en ferai peut-être d'autres pendant cette interview, mais l'institution judiciaire, elle est ouverte. Le palais de justice, il est au cœur de la République parce que c'est le lieu de règlement des conflits. C'est ça qu'on a voulu collectivement. Donc, nécessairement, les audiences sont ouvertes, elles sont publiques. Publiques, non pas tant pour voir des condamnations prononcées, mais surtout pour que les citoyens puissent appréhender la façon dont fonctionne l'institution judiciaire et contrôler au moins du regard ceux qui rendent la justice. Voilà le principe de publicité des audiences. Un peu perturbé ces derniers temps avec la thématique Covid, mais si on lâche cette thématique, on aura tout lâché.
Bon. On verra pour la suite.
On verra pour la suite.
Alors, est-ce qu'on peut évoquer quelques affaires que vous avez défendues?
Oui.
Qui sont connus grâce aux médias, j'ai envie de dire.
Oui.
Pas des choses secrètes, bien
oui,
entendu.
Oui, comme j'entends.
Alors, je voulais évoquer la cause que vous avez plaidée, à savoir celle de la Bastide-Niel.
Oui.
C'est-à-dire Darwin, on peut résumer ça
oui,
pour les gens
Darwin,
qui comprennent correctement. Un procès qui est terminé ou pas encore?
Alors, il y a. Darwin, c'est vraiment. C'est un kaléidoscope de procédure et d'engagement. Donc, ça sera jamais véritablement terminé. La procédure à laquelle vous faites allusion, peut-être, que j'avais suivie avec mon confrère Bourdon, c'est une procédure d'expulsion qui, pour l'heure, oui, est achevée. Donc, on est sur d'autres thématiques. Il y a plein de dossiers avec Darwin, plein d'engagements, plein de combats, celui de leur préservation, mais je pense que la chose est acquise pour tous maintenant. Et puis, au-delà de ça, la nature de leur engagement les conduit parfois à s'opposer à beaucoup de choses, donc à l'urbanisation de la ville, enfin, leur mode de pensée, auquel je souscris parfaitement, là, pour le coup, l'adéquation est totale, les engage sur un certain nombre de combats judiciaires que je porte à leur côté, oui.
Ok. Alors, on peut évoquer aussi les anti-avions.
Assez récent, oui, les anti-avions, les décrocheurs de portraits. Je sais que j'ai été souvent mandaté par Extinction Rébellion et ANV COP21 pour défendre ce type de causes qui sont vraiment intéressantes à plusieurs titres. D'abord parce que vous avez quand même un groupe de personnes, bon, assez jeunes, mais il y a un peu de tout, qui envisagent posément la possibilité, et c'est pas toujours le cas, de commettre une infraction, non pas dans leur propre intérêt, non pas pour gagner de l'argent, pour être plus confortable dans leur existence, mais pour porter une cause commune qui va au-delà d'eux, pour porter un message. Et là, je concède que les procès qui sont engagés font partie de l'instrumentalisation politique, intellectuelle. Alors, beaucoup disent que c'est de l'instrumentalisation politique. Moi, je dis juste que l'institution judiciaire a sa place, y compris sur ces thématiques. Quand vous avez un certain nombre de manifestants qui rejoignent le tarmac d'un aéroport pour entraver 6 secondes l'atterrissage d'un avion et porter l'urgence climatique, il n'est pas inintéressant que l'institution judiciaire puisse porter la parole sur cette possible infraction. Moi, je la conteste absolument. Et puis, sur ce qui a conduit ces militants et ces militantes à s'engager et à être sur le tarmac. Et poser la parole de l'institution judiciaire au travers de ma plume très légère et de ma parole très légère aussi, c'est confronter la société à ses propres engagements. Portrait Macron, décrocheur, avion, les différentes actions de ANV COP 21 sur la Société Générale ou autres, c'est la possibilité pour nous, quand c'est poursuivi par le procureur de la République, de parler de la liberté d'expression, de parler de l'état de nécessité, d'évoquer la logique de l'urgence climatique. Ça m'a permis, notamment pour les décrocheurs, de faire citer des témoins, un député de la France Insoumise, non pas pour faire de la politique, mais pour dire quel est son travail de parlementaire sur la loi climat, quel fut son travail. Loïc Prud'homme est venu s'expliquer très posément là-dessus. De convoquer aussi, ou de faire citer comme témoin, un rapporteur du GIEC, pour indiquer à la juridiction sa façon de travailler. Et on se retrouve avec des audiences de 3 ou 4 heures qui fixent le cadre d'un débat qui n'existe plus dans l'espace public au-delà de celui de l'institution judiciaire. Et quand un magistrat, avec une sanction ou sans sanction, évidemment je préfère quand la relaxe est prononcée, et heureusement elle l'est à de nombreuses reprises, mais quand un magistrat, pardon, pose sa plume pour parler de la liberté d'expression aujourd'hui, sur la logique des décrocheurs du portrait Macron, ou pour l'état de nécessité concernant la thématique des avions, on a la parole de ce qui est non pas un pouvoir, mais une autorité sous le contrôle du président de la République. Voilà, un magistrat indépendant, avec une indépendance constitutionnelle, qui dans un espace ouvert, celui de l'audience, avec un avocat également indépendant, aborde pendant 3 heures ou 4 heures une thématique qui préoccupe la société. Rien de mieux que tout cela.
Donc en gros, vous cherchez aussi, dans les affaires que vous défendez, du sens.
Oui, bien sûr. Ma logique, c'est de confronter, c'est mon rôle, c'est le rôle de l'avocat, confronter la société à ses propres engagements. En toute matière, en tout lieu, en tout temps, c'est la place de l'avocat. Vous voulez sanctionner un comportement parce que vous l'estimez irrégulier. Très bien, appliquons la règle de droit. Le vol, c'est l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui. Il manque un seul de ces éléments. C'est peut-être moralement condamnable, mais pas pénalement condamnable. Nous nous sommes fixés des règles de conduite collective. Il faut les appliquer. Et pour revenir sur les dossiers dont vous parliez, ça va encore plus loin. Très bien. Le portrait Macron, il y a une valeur protégée. Pas de problème. La liberté d'expression en est une. Sous le principe de proportionnalité, on favorise laquelle ? Eh bien, je préfère que ce soit un juge qui réponde à cette question sur 12 pages de motivation régulière plutôt que sur 3 minutes sur les plateaux d'une chaîne d'information continue. C'est aussi simple que ça. Le débat, il naît au sein de l'institution.
Alors je vais rebondir, vous parlez de liberté d'expression, je crois que vous êtes aussi engagé, en plus de votre métier d'avocat, auprès des jeunes. Vous organisez avec d'autres personnes des journées pour les néo-aquitains et vous leur permettez de débattre quelque part sur la prise de parole, la liberté d'expression, toutes les libertés finalement qui existent. Et j'aimerais savoir, écoutez, comment ça se passe et puis ce que ça vous apporte et pourquoi vous investissez avec foi dans ces journées-là.
Alors il y a plusieurs, il y a vraiment plusieurs choses, plusieurs engagements distincts en fait. Le premier, je fais partie d'une association qui s'est dit que peut-être la philosophie ou les principes qui guidaient une vie en commun méritaient d'être portés, y compris dans les lycées techniques et les lycées professionnels, où dès la seconde on abandonne la logique de la philosophie ou des principes républicains. Et avec cette association, on s'est dit que ça serait pas mal d'y aller. Donc on conduit un certain nombre de journées, non pas de formation, mais d'échanges sur la liberté d'expression, sur la justice, sur l'égalité homme-femme, sur les principes de la République, sur le travail, toutes ces thématiques. Et puis, d'une certaine manière, aussi avec la Ligue de l'enseignement, c'est ce à quoi vous faites référence, on construit un certain nombre de démarches qui relèvent de la même logique, en fait. Rappeler, posément, un certain nombre de principes qui fixent notre vie en commun. la liberté au sens strict, l'égalité au sens du triptyque de la République et la fraternité également. Voilà, voilà nos sujets. Donc on essaie de les développer de cette manière-là, assez simplement. Alors il y a pas mal de gens qui s'engagent, je ne connais pas le nombre exact, mais en tout cas ça porte un discours identique. Mais vous avez raison, ça fait un lien parfaitement cohérent avec le discours que j'essaie de porter parfois, parce que je ne fais pas que ça dans mon exercice, mais au sein du Palais de Justice.
Et alors justement, ces jeunes, c'est sur le bénévolat ou
oui,
comment...
oui. C'est que du bénévolat.
Qui les informe? Comment ils sont informés?
Ils sont informés généralement par les recteurs ou par les chefs d'établissement.
Ah oui, des projets qui sont diffusés dans les établissements.
Des projets qui sont diffusés dans les établissements.
On participe ou pas?
On participe ou pas. La liberté encore domine là-dessus. Voilà.
D'accord. Bon, alors on a vu récemment dans la presse, dans Le Monde, je fais un petit saut, qu'il y a une tribune qui a été écrite par des avocats pour dénoncer un peu le système judiciaire, en tout cas le manque de moyens et la souffrance des greffiers, des avocats, de toute la machine judiciaire. C'est nouveau ça, enfin je veux dire, ça a déjà eu lieu, c'est quelque chose que l'on ose revendiquer aujourd'hui ou...
Alors sous cette forme-là, non. Pour préciser les choses, c'est une tribune qui a été rédigée par des magistrats, qui a été signée par des magistrats. Et c'est là-dessus qu'il y a une petite nouveauté. Non pas qu'il ne l'ait pas fait auparavant, mais une telle mobilisation avec plus de 3000 magistrats, peut-être 3000 ou 5000 magistrats, c'est beaucoup. Oui, c'est une nouveauté que ce corps assez discret, accompagné des avocats, puisque l'avocat est un auxiliaire de justice, c'est-à-dire il participe à l'œuvre de justice au sein de son exercice. Oui, c'est un peu nouveau et c'est un cri d'alarme absolu, vraiment. La justice manque de moyens, les magistrats manquent de moyens, les greffiers manquent de moyens. Mais deux options, deux modes de pensée, ou une alternative plutôt. Soit c'est parce que les gouvernants n'envisagent pas de donner plus de moyens à l'institution judiciaire. Soit c'est parce que ces moyens font défaut.
Oui.
J'ai plutôt le sentiment que c'est la première option. Quand je vous disais tout à l'heure que le palais de justice, il est au sein de la République et au sein de la cité pour régler les conflits, aujourd'hui, le palais de justice est plutôt appréhendé comme une cité administrative, avec la place de chacun dans l'espace, un espace public, un espace administratif, un espace de gestion. On construit des cités administratives et non plus des palais de justice. C'est assez tragique et c'est aussi un peu ce que dénoncent les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. On ne peut pas concevoir l'institution judiciaire de manière strictement comptable et administrative. C'est pas possible. Le justiciable doit voir son juge. Il doit appréhender l'audience. La comptabilisation, la normalisation, l'audience au chronomètre n'est plus envisageable. Je pense que c'est ce que les magistrats ont voulu dire. Et sur un point d'accroche plus que sensible, puisqu'il avait été évoqué le suicide d'une jeune magistrate. Mmh. Voilà, je pense que c'était un point d'accroche important. Et voyez comment on le fait discrètement. Voyez comment on le fait posément. On pose nos mots, ils posent leurs mots, parce qu'on présuppose encore qu'un discours cohérent est de nature à conduire une prise de position distincte de nos gouvernants. Un jour, peut-être... les manifestations seront un petit peu plus massives et un petit peu plus dures, je l'imagine.
Oui, alors on en a parlé il y a peu de temps, jeudi dernier, je crois, sur France Inter. Il y avait justement une émission par rapport à la justice qui tirait un peu la sonnette d'alarme. Vous-même, en tant qu'avocat, est-ce que vous trouvez aussi que les délais pour faire les rendus, pour défendre, etc., tout ça, c'est lourd, c'est long?
Oui.
Et le citoyen, finalement, n'est pas vraiment pris en compte. On l'écoute en 3 minutes et puis il faut décider, enfin, pour le juge en tout cas.
C'est ça. Alors bon, tout dépend des procédures, évidemment. Enfin, l'institution judiciaire, elle n'est pas défaillante, mais elle est préoccupée par la notion du temps. Non pas le temps du rendu de la décision, mais celui du temps pris pour la rendre, ce qui est tout à fait différent. Donc, sur les audiences correctionnelles, je résume le propos en mode politicien, ça me terrifie de le faire, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je m'y contrains. Audience correctionnelle, vol, agression. Il faut une réponse rapide et immédiate. Voilà ce que souhaite l'institution. Pas les magistrats, l'institution. Faire vite, dans un temps court. pour afficher l'existence d'une sanction draconienne et d'une puissance politique majeure. Pour qu'à la fin de l'histoire, sur une chaîne ou sur une autre, le garde des Sceaux ou celui qui l'aura mandaté pour ce faire puisse se féliciter d'avoir obtenu 90, 95, 99% de réponses pénales dans un délai court. Affichage politique, médiocrité totale du discours. Clairement.
Je souris, c'est pas drôle, mais je sens l'engagement.
Ah oui, mais vraiment, ça m'agace. Parallèlement à ça, vous avez les dossiers civils dont on parle très peu et qui sont pourtant l'essentiel de l'activité judiciaire. Où là, les magistrats et les greffiers sont privés du temps nécessaire pour juger posément. Trop de dossiers, trop d'audiences. La solution, pour moi, elle est simple. C'est plus de magistrats, aussi bien formés qu'ils le sont aujourd'hui, parce que l'école de la magistrature est une école cohérente et posée qui forme à la dépendance, je veux le croire encore, sans problème, et du temps, de l'énergie et des moyens. Incapables de leur offrir, on leur demande de faire vite, et donc nécessairement pas forcément très bien, dans un temps très court et avec peu de moyens. Donc je me retrouve en tant qu'avocat confronté à un justiciable qui vient me voir pour dire « Mais maître, pourquoi ce dossier est audiencé à 2 ans ?» Et j'essaie de lui expliquer, parce que je sers un peu de paravent, mais je le fais en conscience, que la justice manque de moyens, que le magistrat, il est concerné par son dossier, mais il est concerné par le sien et par 800 autres. Que la greffière est concernée par son dossier, mais qu'elle est concernée par le sien et par 800 autres. Et que le temps qui passe n'est pas un temps choisi, volontairement de mise à distance, mais un temps contraint pour le magistrat. Donc il nous faut recruter plus de magistrats, plus de greffiers, c'est mécanique. Et faire en sorte que les palais de justice ne soient pas des cités administratives, mais soient des lieux ouverts de règlement des conflits. Les choses sont simples, et le discours politique devrait l'être tout autant. Il faut juste compter sur ses doigts. Combien de magistrats nouveaux cette année par rapport à l'année dernière? Quel est le niveau de croissance que vous vous imposez pour former des magistrats? Je crois que c'est vraiment essentiel. À défaut, cette institution risque contre elle-même, avec son engagement, de se distancier peu à peu des citoyens. Et ça, ça serait tragique.
On a envie de dire, il y a plusieurs domaines comme ça, dans la vie actuellement, où les choses se désagrègent un petit peu, ou en tout cas manquent de dynamisme pour raccrocher les wagons. On parle aussi dans l'enseignement de certaines choses.
Enseignement, hôpital. Alors, voilà. Ce constat, au-delà du constat lui-même, soit c'est une situation contrainte par le moment, par le Covid, par l'absence d'économie. C'est possible, c'est possible. Soit c'est une volonté consciente, strictement libérale, opportuniste, économique, financiarisée. Et là, effectivement, il y a un tout petit décalage avec ce que je pense et avec ce que pensent beaucoup d'autres citoyens. Voilà. La justice, le fonctionnement des institutions républicaines, l'hôpital, l'enseignement, priorité ou pas. Pas de faux-semblants, pas de mécanique, pas d'autres discours. Si c'est une priorité, les moyens doivent suivre. C'est tout. Et je ne comprendrais pas qu'on m'explique que l'économie de moyens est nécessaire à la permanence de l'institution. C'est pas possible. Ça n'aurait aucun sens, notamment pour la justice. Ça n'aurait vraiment aucun sens.
Bon, mais écoutez, je crois que cette émission apprend beaucoup de choses à tous ceux qui nous écoutent. Et c'est fort intéressant. On parlait de votre métier d'avocat, les plaidoiries, etc. Mais on parle aussi des fois d'avocat spécialisé.
Oui.
Alors, est-ce que vous vous dites spécialisé?
Non. Alors, je ne me dis pas spécialisé, mais c'est vraiment en conscience. Je vous explique en deux temps ou trois temps. La spécialisation, pour un avocat, c'est une vraie démarche. Quand vous avez affaire à un avocat spécialisé, c'est un avocat qui a fait l'effort de construire sur une matière ou sur une autre, il en existe plein, de se surqualifier, de passer un examen, d'être contrôlé dans ses connaissances et donc de bénéficier d'un titre de spécialisation. Ils sont très peu nombreux. Ensuite, un certain nombre disent ou explicitent que leur champ de compétences se situe plutôt sur le pénal, plutôt sur le civil, sans pouvoir revendiquer formellement de spécialisation. Quant à moi, un peu comme un médecin, ma logique, c'est d'être un avocat généraliste. d'essayer d'embrasser tous les champs possibles du droit, à l'exception de quelques-uns, le droit fiscal pur, c'est pas possible, et le droit de l'urbanisme construction, c'est pas possible non plus, ce sont des matières trop mouvantes et trop techniques. En revanche, et sans manque d'humilité de ma part, mais je veux croire que je suis formé, et nous avons tous été formés, pour appréhender le droit dans son ensemble, avec un raisonnement classique, le syllogisme juridique, qui me permet d'avoir une vision large des matières. Et quand un dossier m'est soumis, cette vision généraliste me permet souvent d'appréhender les choses de manière un peu différente, avec une vision périphérique. Et si mes compétences techniques me font défaut, alors nous sommes suffisamment nombreux pour travailler en concours ou pour renvoyer telle ou telle partie du dossier à un avocat vraiment spécialisé. Mmh. Voilà.
Alors je vous posais cette question parce que je sais aussi que vous vous occupez des contrats d'artistes.
Oui.
Alors ce qui change un peu du ouais, coup, ce vrai. Qui est un peu novateur ou en tout cas ça doit faire un peu une bouffée d'oxygène, c'est...
Oui, c'est différent,
c'est autre
chose. Non, c'est exactement ça. J'avoue que c'est exactement ça. Je m'en occupe de manière de moins en moins anecdotique, pour tout vous dire, effectivement. Et je protège, tant que je peux, en tant qu'avocat, la création artistique. Effectivement, je conseille un certain nombre de peintres, de photographes, beaucoup.
Alors, vous les conseillez, parce que les gens nous écoutent, vous les conseillez... sur la protection de leur travail.
Alors, il y a plusieurs choses. En fait, la palette est très très variée. Elle commence par, pour faire le lien avec ce que nous disions tout à l'heure, par la protection de la liberté d'expression. Mmh. J'ai défendu des journalistes qui ont été interpellés dans le cadre de manifestations parce qu'ils exerçaient leur métier. Donc, je les défends à ce titre-là pour ce qu'ils sont en eux-mêmes. Journalistes et photoreporters notamment, je les défends, je les conseille sur la rédaction des contrats qu'ils peuvent avoir avec les organes de presse, avec des expositions, s'ils veulent décider de vendre leurs œuvres d'art, de concéder le droit qu'ils ont sur cette image qu'ils ont créée, sur un tableau, sur une photo, sur un livre. Donc je leur conseille en disant, ben voilà, l'exercice de vos droits, sans rentrer dans la technique, l'exercice de vos droits, ça peut être ça. Et si vous signez un contrat avec un éditeur ou avec une galerie, voilà quel type de contrat vous pourriez signer pour protéger vos droits, les financiariser d'une certaine manière, c'est évidemment logique. Donc oui, pas mal de photographes, quelques peintres maintenant, même à l'étranger, c'est plutôt chouette, et quelques auteurs.
Du coup, vous avez... suivi une formation, évidemment.
Oui, j'ai
suivi. Non, je n'en doute pas, mais je veux dire, ça s'est fait à quel moment? Peut-être après vos études, vos premières études pour être avocat?
Oui, c'est ce que j'ai décidé. Je l'ai fait, je dirais, après 2 ou 3 ans d'exercice, au bénéfice des rencontres. Mm-hmm. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup formé, et puis j'ai acquis une certaine technique, une certaine expérience en la matière. Et au-delà de cette acquisition, il y a maintenant quelques années, parce que ça fait quand même 18 ans que j'exerce, je me renseigne, j'analyse la jurisprudence, je me forme, soit à distance du fait du Covid, soit en présentiel, avec ceux qui connaissent encore un peu mieux la matière que moi, pour toujours essayer d'être un peu, d'éviter d'être hors sujet. Quoi.
Voilà. D'accord. Et donc j'imagine que ça doit être passionnant aussi?
Oui, alors, plus par les rencontres que par la technique juridique, je dois bien vous le dire. Je préfère plaider les décrocheurs du portrait de Macron plutôt que plutôt que de conseiller un contrat d'artiste, parce que maintenant je connais la matière. Mais évidemment, la rencontre est fantastique, toujours avec les photographes, avec les peintres, avec les auteurs. Ça crée l'atmosphère est un peu particulière, et puis j'ai cette appétence, donc
on s'enrichit.
Ouais,
en même temps.
On s'enrichit, c'est vrai. Et puis mon cabinet est plein de photos, de tableaux. Il y en a presque trop maintenant. Surtout les murs du cabinet.
Il va falloir pousser les murs.
C'est ça.
Bon, alors on arrive non loin de la fin de l'émission.
Déjà.
Et alors on va faire... je vais revenir un peu à mes premiers amours, à savoir le questionnaire de Proust que je faisais il y a quelques années, on va dire. Alors j'en ai concocté quelques-unes pour vous, pas très compliquées, rassurez-vous. Si vous deviez garder un seul livre... Je précise que vous n'étiez pas au courant avant.
Ouais. Eldorado, Laurent Godet. Il faut lire ce livre. 2006, sur les migrants. Il faut lire ce livre.
Très bien, c'est noté. Si vous n'aviez qu'une seule qualité.
l'abnégation.
Et vos idées pour un monde meilleur, là, en faisant en cours.
Alors, vous voulez que je vous liste mes idées ou la qualité qu'elles devraient avoir? Mes idées pour un monde meilleur, maintenir toujours, en toutes circonstances, une démarche combative. Non pas agressive, mais combative. Ne jamais rien lâcher sur la nature de ses engagements. Pas un seul centimètre, vraiment, à rien. Et ne pas se contenter, là c'est toujours en négatif, mais c'est important, ne pas se contenter de la parole politique résiduelle, toujours aller chercher un petit peu plus loin ce qui fait cet espace commun dans lequel nous sommes, c'est-à-dire réfléchir et se projeter au fait que nous vivons en toute hypothèse, en toute circonstance, ensemble. Voilà.
Et je terminerai par un mot que vous aimez bien, qui sonne bien, que vous trouvez joli.
Chouette.
Très bien. Mais écoutez, Sylvain Galina, voilà, on termine sur le gong. Il est 30, bravo.
Merci Emmanuel, c'était chouette.
Et puis, écoutez, bonne continuation à vous. Très bon week-end, reposez-vous bien.
Également.
Vous travaillez le week-end pour réviser vos plaidoiries?
Je sais pas pour réviser mes plaidoiries, mais pour anticiper.
Pour les travailler,
ouais.
D'accord. Bon, mais plein de bonnes choses. Vous qui nous avez écoutés, je vous remercie. Et j'espère aussi que vous avez passé un très bon moment. Et puis, on se dit, nous, à très bientôt pour une prochaine amitié. Une prochaine émission avec un invité encore extraordinaire. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.